Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM et comme chaque mercredi, bien sûr, vous êtes dans Quoi de Neuf, magazine consacré à l'actualité culturelle régionale. Donc l'actualité culturelle, eh bien, elle est très riche en ce moment et on va, comme annoncé, parler de ce festival qui a lieu chaque année à la même époque. Qui annonce l'été d'ailleurs, Maria Carmela Mini, bonjour.
Oui, je suis heureuse d'annoncer l'été.
C'est vrai, hein, l'attitude contemporaine, donc avec ce temps, j'allais dire variable, mais qui respire bon.
Tout à fait.
Quand on se promène ici, quand tu es passé dans les espaces verts de l'université, on se rend compte que quelque chose a changé.
Absolument.
Voilà, donc aujourd'hui on est là pour reparler de ce festival, puisqu'on on a eu le plaisir de t'accueillir la semaine dernière. Entre deux, il y a eu cette soirée d'hier, donc la présentation, qui a démarré par dire ton intervention, la présentation au public. Peut-être tu peux nous faire un petit compte-rendu, un petit résumé de tes propos préliminaires.
Oui, j'ai souligné l'importance de défendre la culture aujourd'hui et... en quelques mots, si je synthétise, en fait, je disais que l'État actuel, notre gouvernement est en train de démanteler à la fois la culture, l'éducation, le service public, et il nous faut être extrêmement vigilants sur ce qui se passe et réagir fortement parce que c'est le bien commun qu'on est en train de détruire et qu'on a mis des années à mettre en place. Et puis je faisais référence au problème, à l'artiste photographe qui a eu sa photo censurée à la FNAC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce problème. Donc un photographe a demandé à son modèle de s'entourer la taille d'un drapeau français alors qu'il était nu en dessous. Et l'État français a demandé à censurer cette photo. Et je trouve ça grave. Je trouve ça grave qu'aujourd'hui, en France, on puisse faire ça. Et je disais qu'il y avait des symboles beaucoup plus importants que ce drapeau français, qui pour moi sont les fondamentaux de la République, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et au lieu de... Donc si l'État se sentait légitime de censurer cette photo, nous-mêmes, nous devrions attaquer l'État et le censurer, en tous les cas, parce qu'il est en train de toucher aux fondamentaux de la République, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité.
Voilà, dans le cadre de cette liberté d'expression, il y a bien sûr l'artiste, le concepteur artistique, qui lui a une place tout à fait particulière, et peut-être tu peux nous expliquer en quoi un artiste peut jouer un rôle important dans une société.
Pour moi, l'artiste, c'est un visionnaire, comme disait René Char, c'est celui qui a quelques secondes d'avance sur la réalité, sur le temps. Et j'aime bien cette notion de seconde parce que pour moi, l'artiste, il n'est pas hors du temps, enfin, et hors de notre société. Il est totalement à l'intérieur et fait partie totalement de cette société. C'est pas quelqu'un qui est comme ça un peu éthéré, on ne sait pas où. Non, il est bien dedans. Sauf qu'il a une sorte d'intelligence ou d'intuition qui fait que il va voir mieux que nous, parce que peut-être qu'il prend le temps de regarder les choses aussi, ce qui est en train de se produire, et très souvent il les dénonce. Il arrive à en faire un acteur artistique, alors que ce soit à travers une photographie, un texte, un acte chorégraphique ou théâtral, mais pour moi c'est ça aussi, être un artiste, c'est... re-questionner cette société, repositionner cette société face à de l'éthique. Je disais aussi hier dans mon texte d'inauguration qu'il fallait faire attention de ne pas mettre de la morale là où il faudrait mettre de l'éthique.
Alors, ces artistes actuels, on peut dire qu'ils sont quelque part dans le prolongement des artistes visionnaires du Moyen-Âge ou peut-être avant. Moi, j'ai l'impression de voir, au travers de nouveaux outils, de nouveaux médiums, de nouveaux médias, un prolongement. Quand on parlait de chorégraphes il y a 10 ans, 20 ans, je trouve que maintenant, ils ont cédé la place, ou du moins dans ton festival, à des artistes beaucoup plus complets et qui ont une vision de la vie, de l'art, etc., qui se fait avec les outils contemporains. Mais je pense que c'est cette même veine qui a traversé le temps.
Tout à fait, oui, absolument. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a ce phénomène, ça, je n'ai pas encore les outils pour l'analyser, je pense. Enfin, c'est vrai qu'on, dans les années 70, par exemple, il y a eu cette idée de revendication avec voilà, tout ce mouvement qui venait après 68, et puis donc avec des artistes qui se sont mis à faire de la performance, des interventions en public pour dénoncer certaines choses. Et c'est vrai mon sentiment, c'est que c'est en train de revenir ce phénomène, hein, du performatif. C'est l'artiste qui va venir crier quelque chose face à ce monde. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces artistes des années 70 et ceux d'aujourd'hui? Je ne peux pas encore répondre, j'ai besoin encore d'y réfléchir.
Mais donc, effectivement, quand on va voir ton festival, on va dire votre, parce que vous êtes nombreux à travailler sur ce festival, c'est une équipe, il y a des gens qui ne se revendiquent pas comme danseurs ou simples chorégraphes. D'ailleurs, c'est le cas de la personne qu'on a interviewée hier soir, et quand je lui pose la question en tant que danseur, il revient très vite en expliquant en quoi sa démarche est très différente. On va écouter son interview, mais on va quand même le présenter avant, on en a un peu parlé la semaine dernière, il s'agit de Stephen Cohen.
Oui, tout à fait. Donc, Stephen Cohen vient de s'installer à Lille. Hein, donc, ça, c'est important à souligner parce que je crois que beaucoup de gens ne le savent pas encore. C'est un artiste d'envergure internationale qui tourne dans les plus gros festivals du monde. Il prépare une grosse exposition pour la Triennale de Hachi au Japon. Il a une grosse exposition en ce moment au Cap où il vend beaucoup de ses œuvres plastiques. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un, comme je le disais la semaine dernière, en effet, c'est un artiste complet, c'est-à-dire que il est à la fois performeur, chorégraphe, interprète, il fait de l'art visuel, il fait de l'art plastique, et tout ça est nourri de qui il est, de son identité, comment il a été construit à travers ce qu'il a vécu en tant que juif, en tant qu'homosexuel, dans une société juive qui rejette l'homosexualité, en tant qu'Africain du Sud vivant à Johannesburg au moment de l'apartheid. Voilà, tout ça fait que ce qu'il dit est empli de son histoire et de tout ça.
Voilà, alors ce que je te propose, c'est qu'on diffuse son interview d'hier. Mm-hmm. Et ensuite, peut-être que puisque je l'ai faite en anglais avec mon pauvre anglais, oui. Si tu veux revenir sur certains mots ou certaines phrases qu'il a prononcées et les retranscrire en français et peut-être rebondir dessus, ça pourrait être intéressant. Mm-hmm. On se retrouve dans quelques instants.
D'accord.
Stephen Cohen sur Radio Campus, 106,6 FM.
In this show, what is Eve? You destruct something. It's about destruction.
It's about loss. It's about letting go of what is precious. Parce que j'adore le valoriser. C'est un objet magnifique, très belle. It's about losing what you have a desire to keep rather than destroying.
In this show, you ask many questions, but you don't answer.
Because an answer is a closed door, and a question is an opening.
You are a dancer, and you concept the show, okay? You are the only responsible.
In fact, I'm not a dancer, I'm a visual artist. And it's like, how many people do you need to make a painting?
Okay.
For me, it's a painting that involves sound, light, and the body. But for me, it's visual art.
I'm agree with that. Okay. Many people saw this show, this performance today. Many people have different reaction. This reaction are the fact of their own history, and you propose many possibilities.
Because I'm not exceptional, I'm ordinary, and my story is many people's story. I'm not the only person who's lost somebody I love. I'm not the only person who feels guilt about action or inaction. I think my work speaks to people because I'm not special.
This show is very rich because there are many possibilities to read it.
I think it should be like that. I think it should be like a painting where different people see different things in the same work. So I don't see that as a failure of the work. I see it as a strength of the work.
One of these possibilities to traduct your show, it's all it's rich and powerful in this life, Western life, is only because you have to kill to have power.
I think in the Western world, in the capitalist world, actually that's not the Western world, that's the whole world practically, we forget that our clothes are cheap because people are paid nothing to make them in another part of the world. And I think you're completely right. I think what we have is at the expense of what other people have to do, because it's not a utopia where everybody profits. Profit is at the expense of somebody else. These skulls were on sale in New York.
In the show, you show beautiful lights and buildings and so on, but you show flowers, beautiful lights, little flowers, and all is destroyed. We can consider that the real beauty of the world is destroyed by artificial lights.
That's very nicely put. I don't have better words for what you say.
Do you think for a man, a woman, people, it's possible to change the things, change the laws?
I think it's a quicker way to change the world with bombs and guns and aeroplanes that fly into buildings. But I think artists have a more constructive way of changing the world by opening consciousness, by giving people a possibility to think differently. And with that can come infinite change.
To win, you have to find some troops, many people. Here, it's special kind of people who are watching shows. They are not true people in the life. Do you think they have really a power here to bring what you want in the whole world, or the real world?
I don't think art should be directed at politicians. I think these people will do, which is exactly why I make work in squatter camps, because those people are also citizens of the world. I think politicians are the most difficult way to change the world. I think in order to convince a politician, you need a gun or you need money. Art is meaningless.
What are the artists, and ancient artists or contemporary artists, performers in painting or in video, you know and you like?
You know, my career has been quite different because I have no training in art. I have no education in art. I have an education in psychology. And what interests me more than artists are non-artists. Because when I see work of other artists, all I see is work I cannot do because it's done. So I'm less interested in artists than in people in life in strong positions. Not in positions of power, but people who survive on the street, people who are alcoholic, people who are schizophrenic. For me, I find my inspiration in the asylum rather than in the museum.
This festival is very particular. You know, in north of France, it's very particular. What for you is the difference between this one and other you know or you have possibility to show your work?
I think Latitude Contemporain is a festival that focuses on the politics. And that's not just the laws of a country, but the social politics of how artists deal with the world. And I think it's not about business. It's not about being right. It's about being experimental and about taking a chance. And I think it's young enough and strong enough and brave enough to do that. And I think Maria Carmela Mini is very different from other festival directors. In fact, I know she is, because the way we met is I did a performance in La Rochelle to which 80 programmators came and one person bought the work, and that was Maria Carmela Mini. And then I knew it's a different kind of festival.
I saw many shows every year, all the year. I think a good show is the show you have in the brain for every life. I think this show will be in my brain for a very long time.
I'm very honored to hear that, because if I enjoy a show, I forget it. If I remember a show, it means the artist spoke with urgency and touched something inside of me, and what you say is the best I can hope for.
Thank you for all.
Thank you too.
Voilà, Maria Carmela Mini, donc, c'était Steve Cohen que l'on a rencontré hier soir. Une petite réaction sur ses propos.
Je le trouve toujours très touchant et on sent à quel point, même dans le ton de sa voix, il est toujours honnête par rapport à ce qu'il dit. Je suis toujours surprise par. Parce que je le connais très bien et je l'ai vu plein de fois à faire des interviews et j'ai l'impression que le poids des mots n'est pas le même dans sa bouche que dans d'autres bouches. Chaque mot a son importance et c'est assez... c'est pas comme s'il avait une conscience de ce qu'il disait ultra aiguë, comme il a une conscience ultra aiguë de ce qu'il montre sur le plateau. Et pour revenir à son travail artistique, c'est vrai que... mon sentiment, et il le dit fort bien, il ne ferme jamais les choses. Hein, et c'est pas quelqu'un qui juge, qui porte un jugement. Jamais il se permet de faire ça. Par contre, il me fait penser à quelqu'un qui a une sorte de loupe, qui le montre sur le monde, comme ça. Il prend une partie du monde, et puis hop, il pose sa loupe, comme ça. Et il nous dit, mais vous trouvez ça normal, ce qui se passe à cet endroit ? Il nous pose juste la question et c'est comme quand il rentre dans cette boutique à New York pour acheter des crânes humains. Il dénonce rien. Il prend sa loupe et il nous dit « Est-ce que vous trouvez normal qu'à notre époque, au début du XXe siècle, on puisse acheter des crânes humains dans une boutique à New York comme si on achetait, je sais pas, une chemise, quoi. » Et c'est vrai que le spectateur, il est face à ces images, face à ce qu'il dénonce pendant tout le spectacle, et c'est lui qui fait, c'est le spectateur qui fait son propre chemin intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin du spectacle le nombre de gens qui sont restés dans la salle quasiment une demi-heure après le spectacle et le nombre de gens qui pleuraient dans la salle. Donc voilà, chacun vit... cette prise de conscience collective, alors des gens vont le rejeter, ce qui est presque normal. Enfin, on n'est pas tous fait pareil, on ne réagit pas tous pareillement aux choses. On a tous des réactions, soit de rejet, soit de tristesse ou de voilà, on a et chacun réagit face comme il peut, j'ai envie de dire, face aux choses de la vie. Et hier, voilà, moi, je suis restée très longtemps après la représentation dans la salle pour voir ce qui se passait. Et il y avait tout ça. Il y avait toutes l'échantillon de l'humanité et la catharsis émotionnelle presque dans la salle. Et ça, c'est fort quoi, d'arriver à ça.
C'est vrai que son propos, pour nous, semble très universel.
Tout à fait, oui.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images très belles, d'ailleurs. Vidéos qui viennent, enfin, qu'il a tournées aux États-Unis, je pense, la plupart. Oui. Donc, sur grand écran, très grande qualité d'image. Et aussi, une certaine perfection dans sa mise en scène, sa scénographie.
Tout à fait, oui. Et c'est là où on voit vraiment sa culture de l'art visuel. Quand il dit dans l'interview « Je suis un artiste visuel », c'est quelqu'un qui a... et d'ailleurs, vous avez vu aussi sans doute les gens monter sur le plateau et aller voir les choses comme s'ils rentraient dans une galerie, voir une installation plastique. C'est fort qu'un artiste soit aussi global, qui nous donne à voir des images, qui donne à voir une chorégraphie, qui donne à pouvoir rentrer sur scène comme si on rentrait dans une installation plastique. Voilà, ça, c'est sa force, vraiment.
Alors, il a signalé que ce spectacle, il l'avait refusé à Georges Pompidou, j'ai bien compris ça ?
En fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû... c'est un spectacle, en fait, qui a été créé, qu'il a voulu en hommage à son frère, puisque son frère s'est suicidé, et dans la religion juive, donc on ne peut pas célébrer un mort quand il s'est suicidé, c'est vraiment interdit. Donc il n'a pas pu rendre un hommage funéraire à son frère et en fait il a voulu ce spectacle en sorte d'hommage funéraire et ça a été très difficile de faire ce spectacle pour lui. Je pense qu'il a fallu du temps et qu'il a pas mesuré la souffrance que ça allait occasionner. D'ailleurs, quand le public parlait avec le public, il disait que je suis allé le rechercher dans les enfers. Et c'est vrai que je suis allé le rechercher dans les enfers pour qu'il la fasse, cette création. Et
même après le spectacle, il a exprimé combien c'était dur pour lui, pas seulement physiquement, mais d'être sur scène à ce moment-là pour représenter ce spectacle.
Donc ça n'a pas été annulé, ça a été repoussé au Centre Pompidou, mais il l'a présenté avec un an de retard.
D'accord, c'est ça l'histoire. Sinon, pour savoir que ce spectacle a d'universel, on peut peut-être demander à Sioyoun qui l'a vu hier soir. Bonjour Sioyoun.
Bonjour.
Donc ce spectacle, tu l'as vu en bonne position, tu étais devant.
Ah oui, premier rang.
Dis-moi un peu comment tu as ressenti la chose.
Comme je suis débutant, peut-être j'ai dit quelque chose qui ne sait pas vrai, mais pour moi, c'est un spectacle très qui me touchait beaucoup parce que il me fait réfléchir entre la relation avec la gloire, la vie moderne et le mort, la dépense, la consommation, quelque chose comme ça. Quand j'ai vu son visage, il était toujours très gai, très joli, quelquefois c'est comme ça, comme la gloire, comme la vie moderne, mais dans ses pieds, il apporte le pantalon, les chaussures à talons, mais il a aussi les os d'humain, je sais pas c'est...
Les crânes.
Oh oui, les crânes aussi, mais c'est un peu violent et étonnant, et très très étonné. Alors, pour moi, dans ce cas-là, j'ai réfléchi un peu sur les liens entre les deux. Peut-être aujourd'hui on vit très bien, mais il y a des comment dire, il y a des morts qui ont consommé beaucoup de choses pour la vie maintenant moderne. Alors en autre sens, son œuvre me présente des mouvements, des lumières très, très magnifiques. Ça me donne beaucoup. Oui. C'est pourquoi, à la fin, quand tout le monde applaudit, mais je t'ai demandé, ah, c'est fini. Je suis vraiment il me fait entrer dans son univers, tout à fait.
Oui. Bravo.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit hein, sur, sur la consommation. Sur, et ça rejoint ce que je voulais dire sur la morale, sur l'éthique, sur prendre le quand je parlais du drapeau français tout à mm-hmm. l'heure, qu'on nous fait croire que c'est les symboles de la République. Non, c'est, pour moi, c'est un objet. Pour moi, les vrais symboles de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est ce qu'il dit pendant tout spectacle. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer et on est dans une société où qui vit sur la marchandisation. Et en plus, bon, vous êtes asiatique... je ne sais pas si vous êtes
chinoise.
Bah, je vais vous toucher encore plus fort parce que peut-être que ça va être très douloureux ce que je vais vous dire, mais on a essayé de savoir d'où provenaient ces
oui.
crânes. Mm-hmm. Et ce sont des crânes asiatiques.
Ah.
donc et donc des crânes asiatiques qui sont vendus aux États-Unis et on se dit mais d'où viennent ces crânes et il est fort probable que ces crânes viennent des prisons chinoises et ça c'est voilà qu'est-ce que ça veut dire de la société dans laquelle on est et c'est terrible de se dire ça.
Ouais.
Came the trees of the railroad. So much you never know. A sand of heydays long ago.
Alors, une partie du spectacle aussi est basée sur le son, et notamment sur les chansons du début qui sont très douces, comme ça, comme ce qu'on entend là un peu. Donc on est dans, à la fois dans la beauté et la douceur des images, et après la violence du propos, on est toujours sur ce contraste.
Absolument, oui. Je ne sais pas s'il cherche à faire de la violence du tout. Hein. Bon, après, dans les chansons, si on écoute les textes, évidemment, ils sont toujours liés aux images, aux propos qu'il est en train de développer sur, sur l'humanité, sur la marchandisation, sur voilà, cette Amérique. Si je prends un moment, il y a l'hymne américain. Hein, donc... voilà, enfin, et c'est vrai qu'il construit aussi tout le spectacle. C'est presque comme la musique arrive presque comme une dramaturgie, un sous-texte aussi dans le spectacle. Et pour revenir à la violence, je ne pense pas qu'il veuille faire de la violence à proprement parler. Il veut pas nous violenter. Il nous juste des choses qui sont violentes.
Par exemple, quand il montre le condamné à mort aux États-Unis qui, qu'on met sous choc électrique et on voit mourir, pleurer le sang, etc.
Absolument.
Je veux dire, on est bien dans des prisons américaines, enfin des lieux de, comme ça où les exécutions ont lieu.
Oui, tout à fait. Et la première fois que j'ai vu ces images, j'étais très choquée. Mm-hmm. Parce que, la première fois, parce que dans mon inconscient, quand on parlait de la chaise électrique, bon, je trouvais ça terrible, bien évidemment, hein, je suis contre la peine de mort, et c'est évident, mais ça restait quelque chose de presque de propre. J'ai envie de dire. Enfin, pour moi, la chaise électrique, même si c'était terrible, c'était quelque chose de propre.
De mécanique.
Voilà, c'est ça. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais non, c'est terrible, c'est horrible. Et il n'y a pas que quand le sang sort des yeux, mais quand on voit... ce sont des images d'archives, donc c'est un documentaire. Hein, donc quand on voit les gens attacher cette personne sur cette chaise électrique, qu'on le voit, qu'on voit
yeux,
ses yeux, ce qui se dégage de ses yeux, quand on voit son corps trembler, transpirer, ça devient une réalité. Enfin, je veux dire, on voit ce que ça provoque. Et après, bon, évidemment, en effet, c'est terrible. Enfin, et je crois que c'est important de montrer ça aux gens, de dire mais ça existe aujourd'hui encore, d'éliminer des gens de cette manière.
Dans les grandes nations démocratiques.
Absolument.
Shines in a black-owned sky, and the time is right.
Voilà, donc Stephen Cohen, un artiste qui signe son temps, on va dire.
Tout à fait.
Ouais. Il n'est pas le seul dans ce festival. On va peut-être parler de la suite, de ce qui attend les spectateurs, les visiteurs de ce festival Latitude Contemporaine 2010, Marie-Camille.
Donc ce soir d'abord, donc avec deux spectacles de très très jeunes artistes. L'une signe sa deuxième chorégraphie, donc il s'agit de Marie-Caroline Ominal, et la seconde, je crois que c'est sa peut-être troisième ou quatrième chorégraphie, qui est Mylène Benoît. Donc elles ont travaillé toutes les deux dans des directions différentes. Mais ce qui m'intéresse à travers le fait de montrer de jeunes artistes, c'est un peu ce que l'hommage que me faisait. J'étais très touchée d'ailleurs tout à l'heure quand Steven disait que j'étais pas comme les autres programmatrices, mais je sais pas si c'est vrai. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'essaye de porter un regard différent sur les artistes. Voilà, parce que peut-être je suis persuadée que ils sont nécessaires à notre société, probablement, et qu'on se doit de leur prêter une attention particulière. Et c'est vrai que, quand il me disait tout à l'heure, je jouais à La Rochelle, il y avait 90 programmateurs, une seule m'a programmée, c'est Maria Carmela Mini. C'est vrai que, voilà, pour moi, c'est un devoir de montrer des choses, d'une part, et puis aussi de soutenir la jeune création, et c'est ce que j'essaye de faire avec donc Marie-Caroline Ominal et puis Mylène Benoît. Je passe mes journées à aller voir des spectacles, à aller voir des répétitions et toute l'année. Et donc voilà, quand je vois des choses ou des personnes, parce que c'est pas que des spectacles, c'est vraiment des personnes, je crois. Genre.
Alors Mylène Benoît, on la connaît, elle était au Frénois il y a un temps. Et d'ailleurs, on va parler tout de suite après ce sujet, Marie-Caroline, de Panorama 12, puisque c'est l'édition qui vient de démarrer. Mm-hmm. Et nous l'avions rencontré à une certaine époque, il y a 2 ans peut-être, pour présenter donc son travail de fin de période de résidence, on va dire. Mm-hmm. Donc là, elle revient dans une programmation.
Et donc elle vient avec un spectacle où elle utilise des nouvelles technologies, puisque c'est ce qu'elle avait aussi développé lors de sa résidence au Frénois. Elle questionne enfin la chorégraphie et à travers ça comment l'humanité, enfin comment les gens s'influencent les uns les autres, comment on s'écoute les uns les autres, comment on peut être en comme des taches d'huile, c'est-à-dire se diffuser les uns sur les autres. Et donc elle vient parler de ce travail dans cette chorégraphie, et donc les interprètes sont sur scène et essayent de reproduire leurs gestes avec quelques secondes de décalage les uns les autres, et au bout d'un certain temps on voit que la chorégraphie change et crée un propos en fait.
Voilà, donc bien sûr, on aura le temps de revenir la semaine prochaine avec le maximum d'interviews. Tu vois, là, il y en avait une hier, je ne pouvais pas en faire deux des artistes, puisqu'il était le seul programmé hier soir. Ça valait quand même le coup de le voir hier, on aurait manqué quelque chose. Oui. Mais ceux qui néanmoins ont raté hier, ils ont quelques jours pour se rattraper.
Absolument. Alors, d'ailleurs, on a énormément de monde aujourd'hui pour les représentations de ce soir. On a dû refuser beaucoup, beaucoup de gens au téléphone toute la journée. C'était la raison de mon petit retard d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on a vraiment des problèmes de billetterie maintenant. C'est que on doit refuser du monde pour certains spectacles, et il faut gérer ça parce que c'est toujours difficile de dire non.
Donc je ne sais pas si on va parler de ce soir puisque c'est complet. On en reparlera peut-être comme bilan la semaine prochaine. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vraiment voir encore?
Alors là, il y a deux grosses. Donc il y a surtout Latif à la Bissi demain, qui va présenter donc Self-Portrait Camouflage.
Où ça?
Donc à la Maison Folie d'Oisem. Là aussi, Latifa porte un regard un peu. voilà, provocateur, j'ai envie de dire, sur l'État français. Et d'ailleurs, elle va malmener le drapeau français. Donc, on s'amuse parce qu'on se dit, ah, tu vas peut-être aller en prison demain, mon natif.
Ben voilà,
donc, vous allez peut-être...
Hortefeux va intervenir, c'est sûr.
Assister.
Il y a les RG qui seront dans la salle, en peut-être. Tout cas, ça c'est clair.
Peut-être, mais donc voilà, et donc elle va parler de la colonisation et je crois que c'est un sujet extrêmement important à aborder aujourd'hui quand on a un musée qui s'ouvre, qui s'appelle le musée, d'ailleurs j'oublie son nom, mais c'est par, je crois que c'est par rejet de l'immigration.
Il y a la Cité nationale de l'immigration.
Oui, donc de l'immigration, et je trouve ça grave qu'on doivent ouvrir un musée d'immigration. Et donc, parce que ça pose plein de questions. Je pense que notre société, elle se construit avec l'immigration, elle ne date pas d'hier. C'est l'humanité s'est construite ainsi. Donc, je pense que les problèmes des quartiers ne sont pas détachés du problème de la colonisation. Et peut-être que quand l'État français reconnaîtra qu'il a une responsabilité vis-à-vis de cette population qu'ils ont colonisée, peut-être que quand l'État français regardera un immigré dans une banlieue en lui disant « Oui, un jour la France a colonisé ton pays », peut-être que ces gens-là respecteront plus la République. Je pense, j'en suis persuadée.
Sur ce sujet, peut-être qu'on peut, on peut donner la parole à Anzar, ici présent. Donc, bonjour Anzar.
Bonjour René.
Donc, je me souviens, donc, Anzar, dans ton émission, dont on peut donner le titre,
sera La Voix de la Berbérie tous les dimanches.
Tu avais diffusé à un moment donné, tu te rappelles de ce sujet sur le négrier ?
Le bassin minier.
Tu te rappelles de
oui.
ça ?
Oui,
un document très fort.
Ouais, c'est un document que j'ai diffusé il y a quelques années. Mm-hmm. C'est vrai, c'est un petit travail de recherche qui a été fait justement. C'est-à-dire, on a parlé de la façon dont le Morat le Négrier, justement, a ramené des Marocains pour qu'ils se retrouvent justement dans les mines et tout. Donc les façons là, surtout ce qui était choquant, c'était la façon dont la sélection est faite déjà sur place au Maroc.
Tout à fait, oui.
Donc, c'est vrai que c'est un sujet très, très émouvant. Donc, Morat le Négrier, donc, quand il arrive là-bas, la présélection, comment elle se fait, il va chercher tous les costauds du village, donc il sillonnait tous les villages, donc de côté l'Atlas et tout. Donc, après, bon, la première présélection, donc, il les mettait au soleil, là où il faisait 30 degrés à l'ombre. Il voit combien de temps ces costauds résistent. Donc, il prenait que les meilleurs. Alors, il leur promettait justement donc de leur donner un Eldorado. En France, malheureusement, quand ils arrivent ici, donc ils se retrouvent comme des esclaves dans les mines. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, il y a les femmes du village qui chantaient « Morat le Négrier, tu nous as pris le bélier, tu nous as laissé des brebis ». Voilà. Donc, c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, quand on voit les villages, quand on écoute les préludes fourdonnés par les femmes d'aujourd'hui, donc c'est toujours Morat le Négrier qui revient de l'avant.
Merci Anzar, voilà, c'est intéressant d'avoir un témoignage adapté à
tout à fait, c'est parfaitement de ça dont va parler Natif Alabissi demain dans Self-Portrait Camouflage. Très beau spectacle.
D'accord, donc on poursuit.
Alors ensuite, nous avons les deux journées avec les rencontres professionnelles sur les bureaux de production, donc voilà, qui se dérouleront à Saint-Sauveur pour le vendredi, au Phoenix à Valenciennes pour le samedi. C'est un très gros succès. On est assez surpris puisqu'il y a déjà plus de 200 professionnels venus de toute l'Europe qui se sont inscrits. Donc ça démontre bien que c'est un sujet urgent pour la filière du spectacle vivant et qu'il faut qu'on se réorganise. La profession est en mutation et il faut qu'on s'adapte à cette mutation. Donc voilà, on est très heureux déjà de ce nombre impressionnant de personnes qui vont venir. Et puis donc durant ces deux journées, on va présenter plusieurs spectacles, des très très beaux spectacles. Bon, d'abord il y a le cours de hula hoop, ça c'est pour amuser les enfants qui sont sur le parvis de Saint-Sauveur, donc ça sera le vendredi à 18h. Et puis ensuite on va enchaîner avec un très très beau spectacle de Maggie Marin, qui est un duo. C'est un spectacle qu'elle présente rarement, elle le joue peut-être entre 4 et 6 fois par an, elle l'a créé en 2006, et c'est un spectacle qui parle du geste même de la création, et en fait c'est écrit comme une sorte biographie de l'écriture artistique, enfin pas biographie mais testament, enfin je sais pas quelle, oui, elle vient se livrer en tous les cas dans ce texte, et elle explique ce que c'est que créer pour elle, et tout ça est accompagné d'une chorégraphie pendant qu'elle parle avec Denis Mariotte, qui est son compagnon sur scène et dans la vie. Et c'est un très très beau duo, extrêmement touchant, parce qu'il parle du cœur même de ce qu'est la création pour un artiste, et qu'est-ce que c'est, quelle violence que cela crée chez lui, chez l'artiste, dans son corps, dans son âme, dans son être, dans sa tête, où il doit aller chercher pour un jour être devant un public sur scène avec un projet. Et c'est très très beau, vraiment. Et les spectateurs vont devoir choisir entre une rencontre avec Stephen Cohen à la Maison Folie à Saint-Sauveur, pardon. Donc c'est une rencontre qui aura lieu à 20h30. Il va montrer des films et puis parler de son travail, comment il construit, pourquoi il a fait ses films, sa démarche artistique, etc. Et au même moment, il y aura le spectacle de Mathilde Monnier et Larry Bott, Gustavia, qui est un spectacle sur la femme, sur la place de la femme dans le milieu artistique. Qu'est-ce que c'est quand on est femme et qu'on crée, qu'est-ce que c'est qu'être femme de presque 50 ans et qu'on est artiste créateur, et elle s'amuse énormément, elle se moque d'elle-même avec beaucoup beaucoup de joie, et elles nous font beaucoup rire en tous les cas. En tous les cas, pour cette journée, non, c'est pas encore fini la journée, oui, c'est une longue journée vendredi, puisqu'on poursuit avec un duo qui est celui de François Chéniaud et Marie-Caroline Minal, dont je parlais tout à l'heure, qui est un duo qui s'appelle Duchesse, et en fait, ils vont passer du cours de hula hoop tout en grand public, un projet beaucoup plus intime, où ils nous font... une performance de 35 minutes de hula hoop sans s'arrêter, avec une très belle musique en fond, et c'est presque une image du début du monde. On a l'impression de voir Adam et Ève sur scène en train de faire du hula hoop. Ils sont tous les deux magnifiques et c'est très très beau. C'est un geste simple et très esthétique, qui se laisse regarder comme ça, comme quelque chose de magique, une image comme si on regardait un tableau, en fait, très beau tableau. Et puis ensuite, Stephen Cohen reviendra à la Maison Folie d'Oisem, juste après qu'il ait fait cette rencontre avec le public à Saint-Sauveur à 20h30. Et donc il revient en courant presque avec ses chaussures à hauts talons de Saint-Sauveur à la Maison Folie d'Oisem pour présenter Chandelier à 23h45. C'est un peu tard, mais ça vaut la peine. C'est aussi puissant que Golgotha qu'on a vu hier. Ça parle des township, c'est une performance qu'il a fait en Afrique du Sud, au milieu de gens qui vivent dans la rue, et là aussi il prend sa loupe en forme de chandelier, et il va apporter la lumière dans un endroit que nous Européens en tous les cas on ne va jamais voir, qui sont les défavorisés d'Afrique du Sud.
Un spectacle qui a été présenté au Vivat Armentières, je crois.
Tout à fait.
Certains ne l'ont pas vu, c'est l'occasion.
Oui, absolument. Voilà pour la journée du vendredi. Et puis donc le samedi, nous serons au Phoenix, donc avec où se poursuivront donc ces rencontres professionnelles. Et donc à 18h, il y aura une création de Vincent Dupont qui s'appelle Souffle. Alors je peux dire très très peu de mots sur cette ce spectacle, c'est puisque je ne l'ai pas vu. Donc voilà, c'est ça rejoint tout à l'heure ce que je disais sur la prise de risque, l'accompagnement artistique. J'avais accueilli Vincent Dupont avec un spectacle magnifique il y a 2 ans qui s'appelait Au cri. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Très très beau spectacle, très puissant, et voilà, enfin je me fais une rigueur de professionnel de suivre.
Il a travaillé avec Boris Charmaz, que tu as déjà programmé.
Oui, absolument. Mmh. Et donc Vincent montrera.
C'est un peu un disciple.
En tous les cas, c'est quelqu'un que je suis, oui. C'est quelqu'un que je suis. J'aime beaucoup son travail. C'est, là aussi, il a une dimension humaine très forte. C'est quelqu'un de très généreux, qui porte un regard aussi sur la société, très percutant. Donc voilà, j'aime bien ce type de personne, en fait.
Je parlais du disciple de Boris Charmaz.
Hein. Absolument. Et donc ensuite, avec Miguel Guterres et Vincent Segal, on sera un peu plus fun, on va dire, avec un bal. Donc Vincent Segal est un violoncelliste hors pair, hein, sans doute un des meilleurs violoncellistes mondiaux, qui va faire une performance avec Miguel Guterres, qui est un interprète, danseur et chanteur extraordinaire. Et donc voilà, ils vont nous faire danser pendant un peu moins de 2 heures.
Voilà, au Phoenix de Valenciennes.
Tout à fait.
Et après, on revient à la Maison Folie d'Oisem lundi.
Oui, avec Maria Laribotte, elle aussi une grande habituée des Latitudes. Ça sera la 3e fois qu'on l'invite. Mmh. Donc avec sa dernière création qui est Yamame Mariachi. Et donc c'est un spectacle fou, un peu à la Almodovar, puisqu'on compare souvent Laribotte, parce qu'ils sont de même nationalité, ils sont tous deux espagnols, à ce cinéaste Almodovar, parce que je pense que l'univers visuel un peu baroque de couleurs et de situations totalement improbables, les fonds se font qu'on les compare. Et voilà, Laribotte, c'est vraiment cet univers loufoque, coloré, qui vient un peu bousculer aussi nos a priori, nos préconçus. Voilà, elle vient aussi appuyer parfois où ça fait mal. Mais c'est très bien de se faire un peu chatouiller de temps en temps, là où ça fait mal.
Voilà, donc là, eh bien, on ne parlera pas de mercredi puisque tu nous reviens.
Absolument.
Et on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur l'agenda précédent et sur la suite de ces événements.
Avec grand plaisir.
Bien, merci Maria Carmela Mini. Et donc rendez-vous à ce soir pour nous, parce que c'est complet, donc pour les autres, tant pis.
Oui.
Donc demain, à la Maison Folie d'Oisem, pour ceux qui veulent avoir de la place.
Oui, tout à fait, réservé surtout.
Merci, bonne soirée.
Est, Nord, Sud ou Ouest? Ne ratez pas les Latitudes Contemporaines, le festival de danse contemporaine. Il se déroule du 8 juin au 18 juin 2010 dans plusieurs lieux de la métropole. La Maison Folie de Oisem à Lille, le Théâtre de l'Oiseau-Mouche à Roubaix, la Gare Saint-Sauveur, la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq, le Phénix, la scène nationale de Valenciennes et la Maison Folie de Beaulieu. Plus d'infos sur www.latitudecontemporaine.com.